En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Nous voilà en 2024, l'occasion de se retourner sur 2019, année où en sol majeur fêtait ses 10 ans. 10 ans en 2019, 15 ans en 2024 que par transistor interposé, nous nous parlons de nos arbres, de nos généalogies et de nos identités mobiles. Si je nous résumais, je dirais que quel que soit le noir ou le bleu de nos yeux, on a tous les mêmes nœuds. Donc pour sabler ce cycle, j'ai fait un nœud moi aussi, mais sur un paquet cadeau où c'est écrit « Transmission entre générations ». En sol majeur avait envie de vous faire réécouter cette conversation entre trois grands-mères exceptionnelles et leurs petites filles. Trois conversations intergénérationnelles enregistrées à Paris, où l'une questionne l'autre, où l'une ne se souvient plus, où l'une traduit la langue de l'autre, mais toujours de transmission, il est question.
Quand je t'ai vue, c'était la beauté qui arrivait. Le soleil n'était rien.
Oh. C'est mieux. Moi, je préfère qu'on me dise le soleil n'était rien plutôt que tu étais une petite crevette. C'est ce qui revient souvent quand on parle de moi, bébé.
Bah écoute, tu es là, tu as une petite fille. À te couper le souffle. Qu'est-ce que tu veux de plus ?
Nous voilà entrés pour RFI dans cette première conversation entre Clara et sa grand-mère, Sarah Maldoror. Incroyable personnage, Sarah est une des premières réalisatrices noires à avoir milité derrière sa caméra internationaliste pour les indépendances africaines. Angola, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Algérie en tête, elle a d'ailleurs été l'assistante de Pontecorvo sur l'inoubliable bataille d'Alger. De Mona Gambé à Guyane Léon Gontran Damas, c'est une filmographie d'utopiste guerrière. Cheveux crépus, noir hier, blanc aujourd'hui. À 82 ans, elle ne se souvient plus forcément de toute la pellicule de sa vie. Mais Clara, 25 ans, est la boîte noire de sa mémoire.
Je ne sais pas si c'est mon premier souvenir, mais en tout cas, c'est la première image que j'ai vraiment en souvenir du coup de mamie, c'est le jour où papa m'a engueulé et il m'a privé de cheval parce que j'avais pas mangé de chou de Bruxelles. Enfin, j'avais mangé mon chou de Bruxelles, mais après il m'a resservi en me disant que si je n'en mangeais pas plus, je n'allais pas au cheval. Et t'es arrivé après le déjeuner et moi j'étais super énervée et tout. J'avais refusé de manger mes choux de Bruxelles, du coup je savais que le lendemain j'allais pas faire du cheval. Et je vais te voir en étant à la cuisine. Et je t'ai dit, mamie, c'est injuste, je me suis fait punir, c'est injuste, j'ai fait ce qu'il a dit et tout. Et tu m'as regardé, tu t'es redressé d'un coup, et tu m'as dit, Clara, apprends, la vie est injuste, fais comme Mao, suffis-toi à toi-même.
Ah ! Je t'écoute, hein.
Bah, je réfléchis, j'ai plein de questions, faut que je les mette dans l'ordre. Plus ça va et plus je me rends compte que je sais pas grand-chose de ta vie avant ma naissance. Et d'abord sur ton enfance, parce que moi, tout ce que je sais, c'est que tu es née dans le sud de la France, que tu as une maman blanche et un papa martiniquais, et qu'il est parti, et que tu t'es retrouvée très tôt, enfin, la fratrie en tout cas s'est retrouvée très tôt seule avec cette maman blanche dans les années 30-40. Donc j'aimerais bien que tu m'en parles un peu de cette construction-là.
Faut toujours avoir quelqu'un à l'écoute. Parce que finalement, bon, on est seul. Alors comment vivre seul ? Et les gens sont plutôt, à notre égard, difficiles. D'abord, on est noir. Bon, ça fait trois pas en arrière.
Mais alors du coup, est-ce que vivre, c'est s'engager ? Est-ce que vivre, c'est se battre ? Est-ce que vivre, c'est attendre ? Est-ce que vivre, c'est...
Non, vivre, c'est se battre. Sinon, on t'écrase. D'abord, on ne te voit pas, t'es comme la terre. Pour les gens, quand on est là et qu'on est orphelin, qu'on n'est rien, c'est dur. C'est-à-dire, un orphelin, bon, ou un semi-orphelin, ne doit pas être victime de la famille qui ne le regarde plus, qui ne l'entend pas. Savoir se passer de la famille et comment s'en passer, sans emporter les conséquences. Parce que quelqu'un qui n'a pas de famille, il vit mal.
Et
moi, je ne plaisais pas à tout le monde. Hein.
En parlant du fait que tu ne plaisais pas à tout le monde, Comment s'est passé ton départ d'Alger ?
Mais très bien, Alger n'a pas été une prison pour nous. Alger, c'était la liberté.
Moi, ce que je sais de la période pendant laquelle la famille était en Algérie, c'est que déjà, elle a été assez brève. Enfin, c'était plusieurs années, mais pas beaucoup. Que quand vous êtes partie, ma mère avait 8 ans. Et que vous êtes partie, toi et tes deux filles, très vite, parce que le gouvernement algérien de l'époque t'avait commandé un film sur la révolution en Guinée-Bissau. Mais alors qu'on t'avait commandé un film de propagande, t'es revenue avec des chants de femmes dans les rues et que quand on t'a dit « non mais c'est pas du tout ».
Maintenant on me commanderait un film, quel qu'il soit, je le ferai en fonction de ce qu'on me commande. Mais bon, à l'époque, me commander un film, c'était me laisser libre. Et je faisais le film que je voulais.
Donc, tu présentes le film, et là, un militaire te dit que c'était pas du tout ce qu'il attendait de cette commande. Et là, tu l'as insulté en disant que t'es un petit capitaine, n'allait pas t'apprendre à faire de l'art. Moi, c'est ce que je sais. Et que du coup, t'as eu 24 heures pour faire tes valises et partir.
À l'époque, insulter ne valait pas dire ce que c'est qu'insulter aujourd'hui. Il fallait se défendre. Donc insulter, ce n'était pas des grossièretés, c'était s'opposer.
Est-ce que tu te souviens d'avoir été expulsé d'Algérie ?
Oui. Oui, bon, c'est un accident de parcours. Je n'en veux pas aux Algériens parce qu'ils m'ont expulsé. Il n'y a pas que moi qu'ils ont expulsé. Bon, c'est tout.
Pour En sol majeur, moment à tâtons pour Clara, doctorante en droit pénal, qui ouvre tous les tiroirs d'une sacrée mamie nommée Sarah Maldoror, une Sarah qui, à son insu, a eu le temps de remettre toutes les clés de son utopie militante à Clara, devenue gardienne du temple.
Alors, mamie, moi, je voudrais savoir comment le fait d'être noire a influencé ton parcours. Je te pose cette question parce que moi, j'y suis confrontée, mais que je me suis rendu compte que j'étais noire très tard. Mais du coup, j'ai aussi un regard particulier parce que toute mon enfance, j'en étais pas consciente. Et je te pose du coup cette question parce que je voudrais savoir comment est-ce que toi, tu as fait pour vivre et pour justement pouvoir tenir ce discours aujourd'hui qui est de dire « je suis noire, je suis née noire, c'est moi, c'est comme ça », alors que on est noire aussi parce que l'autre nous identifie comme tel.
Ce que l'autre pense de moi parce que je suis noire, ça m'est, alors madame, est parfaitement égal. Je m'en fiche royalement. Elle ou il peut penser ce qu'il veut. Si vous êtes noire, imposez-vous en tant que noire. Et ne vous occupez pas de ce que la blanche pense. C'est chacun doit dire « je vis ». Je veux vivre, je suis noire, je l'accepte.
Moscou, mamie, c'était comment ?
Bien.
C'était bien ?
Oui. J'ai fait mes études de cinéma à Moscou. Non, j'en ai gardé un bon souvenir. D'abord, aller à Moscou, à l'époque, vous partez à Moscou faire vos études. Vous ne savez pas un mot d'anglais, vous ne savez pas un mot de russe. Et vous partez. Bon, ben, je suis partie. Pour moi, Moscou, c'était le paradis. Quand je n'y avais pas été, hein, je dis bien... Quand je ne connaissais pas, Moscou était le paradis. Bon, maintenant, vous me direz, Moscou est le paradis, je vous casse la gueule.
Alors, mamie, pour moi, tu représentes aujourd'hui une figure de radicalité totale, radicalité à laquelle j'aspire, si aujourd'hui il est possible encore d'utiliser le terme comme étant un terme positif. Est-ce que tu sais ce que je fais dans la vie, mamie ?
Non. Qu'est-ce que tu fais ?
Je suis doctorante, donc j'écris une thèse en droit pénal sur l'organisation de la détention des personnes incarcérées pour des faits de terrorisme en France et en Colombie. Le terrorisme et la prison, si c'est
ma
pas toi...
Ma petite fille est tombée sur la tête.
Moi, si c'est pas de ta faute, tu m'y as jeté sur la tête. La prison et le terrorisme, mamie, tu te rends compte ? Je pense que j'aurais jamais travaillé sur la prison si j'avais pas grandi à côté de toi
Eh bien, je suis fasciné par les prisons. Parce que je trouve que c'est un monde passionnant. Qu'on méprise, bien sûr, à tort d'ailleurs, mais je trouve que les prisonniers des prisons, hein, je parle toujours, ce sont des hommes fascinants et qui ont beaucoup à nous apprendre.
Suspect, coupable, il est responsable. Où sont ses semblables ? Au Congo ? Dans la brousse ? À Cabinda ? Où sont-ils, monsieur Reiss ? Trois mois sont passés. Nous ne pouvons plus attendre. Insistez, monsieur Reiss. Insistez. Nous luttons contre des sauvages, contre des fauves qui doivent être combattus comme des fauves.
Et là, mamie, on est en train de regarder le film Mona Gambé, qui est ton premier film et qui a été soutenu financièrement par le FLN, qui a été tourné en Algérie. Et c'est un film qui m'a particulièrement marquée, qui se déroule en prison, à la fois dans les zones de détention, avec un travail sur le corps détenu, le corps emprisonné, qui est extrêmement intéressant. Et cette scène-là qu'on est en train de regarder, dans laquelle on a du coup cette personne qui est le héros du film, qui est dans sa cellule. C'est un film en noir et blanc, avec un corps noir et une cellule mal éclairée. Il n'y a qu'un lit. Et qui du coup se contorsionne dans sa solitude et c'est presque une danse. Est-ce que le sujet de ce film, c'est priver quelqu'un de sa liberté est déjà une forme de torture ?
Écoute, je ne sais pas quel âge j'avais quand j'ai fait le premier film. C'était mon premier film. Et un premier film, on le fait toujours avec beaucoup plus de délicatesse, beaucoup plus d'attention. Il faut toujours trouver une autre façon de présenter la torture. La torture existe, il faut la combattre sans arrêt. Mais pour la combattre sans arrêt, il faut savoir quelle torture. Ce qui se passe en ce moment, bon, c'est important, la torture recule. Mais il ne faut pas qu'elle recule, il faut qu'elle disparaisse. Qu'on fasse comprendre, taper sur un homme qui est déjà prisonnier, c'est lamentable. Il y a des choses qui ne se font plus, c'est-à-dire le respect de l'homme. Il faut le respecter en toutes circonstances, quoi qu'il ait fait.
Comme quoi les grands-mères ne transmettent pas que des tartes aux myrtilles. On va laisser Clara et Sarah Maldoror discuter et revoir ensemble Mona Gambé en rêvant sur l'Argentin Facundo Cabral qui chante « Je ne suis ni d'ici ni d'ailleurs » pour en sol majeur.
Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, saltar paredes y abrir los balcones y las muchachas de Tandil. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y Diana cantando en francés. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí.
Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, bienvenue en sol majeur qui fête cette année ses 10 ans avec un numéro spécial de tchatch, de questions-réponses ou de conversations fleuves entre grand-mère et petite-fille.
Un de mes souvenirs les plus lointains, c'est Ah, j'en ai un autre qui me revient, que j'aime bien aussi. Déjà, tu me faisais beaucoup d'œufs à la coque. Dans cette... coquetier...
Du grand-père.
Du grand-père, voilà. Ouais. C'est vrai que les œufs à la coque, je les mange avec toi. Pas vraiment ailleurs.
Et avec l'arrière-grand-père que tu n'as jamais
voilà.
vu, moi non plus d'ailleurs.
Non, bien sûr. D'amour.
Eh bien oui, c'était. Il a fallu qu'elles traversent toute leur saison pour. Voilà, maintenant, elles dorment dans les bras l'une de l'autre.
L'une est voluptueuse, la vingtaine, la peau caramel, c'est Sarania. L'autre est une femme oiseau, la peau blanche, c'est Hélène Cixous. L'une est la petite fille de l'autre. Pour le monde des lettres, Hélène Cixous, c'est de l'or sur la langue. Avec une œuvre majeure faite de fiction, d'essais et de théâtre, où l'inconscient bataille poétiquement avec la langue, souvent au service de l'histoire. Amoureuse de la peau des jours, elle tisse, elle tresse, elle pousse le bouchon de son amour pour Joyce, l'Algérie, Derrida, les chats, l'Inde, Ève, sa mère, très loin. Des cahiers de souvenirs sur la table, avec Sarania pour en sol majeur.
Un souvenir... Quand j'étais petite, où j'adorais les sirènes, j'aime toujours les sirènes, mais petite, j'étais vraiment limite une obsession. Et tu m'avais déguisée en sirène, où j'avais mis un pantalon, deux jambes dans un trou de jambes, et tu m'avais prêté un de tes soutiens-gorge. On avait rempli de.
À l'époque où il fallait te prêter.
Oui, à l'époque où il fallait, mais clairement, plus besoin. Et donc.
Mais moi, mon premier souvenir, comme tu le sais, il est presque mythologique. Hein. Ouais. C'est l'arrivée extraordinaire à Roissy.
Ouais. J'ai regardé des photos hier soir.
Ah, mais ouais. Tu t'es vue alors, comme une sorte justement de minuscule petite fée rouge. Oui.
Oui.
Débarquant ouais. de l'Inde. Ouais. Et avec ces grands bâtiments de Roissy, tout en métal et en verre. Mm-hmm. Pour moi, sur des kilomètres... On voyait cette minuscule petite chose, parce que c'était minuscule, et qui courait à toutes jambes. Voilà. Et je dois dire que tous les voyageurs qui étaient là, et tout, enfin tous les gens qui étaient là, étaient fascinés par la petite flamme qui courait de toutes ses forces, et qui était un peu comme les chats, en fait, hein, c'est-à-dire prête à jouer. Et je t'avais apporté... Tu peux pas te rappeler, mais tu dois avoir un souvenir à porter.
Hein, un lapin.
Un lapin. Ouais. C'était ton premier mot français.
Oui. Je me rappelle de ça, ouais. Mais j'arrivais de l'Inde à 16 mois, parce que mes parents et toi sont venus, mes parents sont venus me chercher, voilà, parce qu'ils voulaient un enfant.
Et tu connais le nom de ton lieu d'origine?
Oui, le Kerala.
Ça, c'est le Kerala. C'est le pays.
Le
oui.
pays, le Kanjirapalli.
Et Kanjirapalli, c'était ton village.
Voilà.
Ouais.
Ouais. Oui, je me rappelle.
Mais ça, de ça, tu n'as pas de souvenir.
Non, je n'ai pas de souvenir du tout.
Tu dois avoir des souvenirs d'avant les souvenirs, des pré-souvenirs.
Oui.
Et ce qui est étrange, c'est que ça a fait pour nous, enfin pour moi, une extension finalement imprévue, mais comme promise, de l'Inde à laquelle je m'intéresse depuis très 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 longtemps. Et tout d'un coup, il y a eu une sorte comme ça de cristallisation féerique. Mmh. Et c'était Sarania. Mais en fait, tu le sais aussi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand tu avais 9 mois que tu es arrivée dans notre vie. Mmh. Mais tu n'es pas sortie de l'orphelinat avant, puisqu'il fallait faire des papiers, etc.
Oui.
En fait, on se raconte cette histoire, mais on se la raconte assez peu. Parce que d'une certaine manière, c'est comme si, tu me diras si tu es d'accord, c'est comme si... Je dirais, comme les gens les plus intéressants, comme si tu avais plusieurs origines et plusieurs naissances.
C'est vrai. Mmh. Moi, je dirais la même chose, parce que c'est vrai que l'Inde, d'où je viens, c'est mon départ, disons. Mais c'est un autre, parce que j'en ai plusieurs des départs. J'ai mon départ en France, et j'ai mon départ aux États-Unis. Et pour moi, les trois jouent autant, mais peut-être les États-Unis et la France jouent plus, puisque je grandis et je vis, je suis élevée dans ces cultures. Je n'ai rien de l'Inde à part mes origines, je m'intéresse à la culture indienne, mais je ne sais pas plus que certaines personnes. Je sais bien moins de choses que toi, je pense. Et puis, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas vraiment, toi et moi.
Est-ce que tu dirais départ ou arrivée?
D'où?
Ah ben dans tous les cas. Est-ce que tu dirais mon arrivée en France, mon départ, mon arrivée?
Moi, je dis que c'est mon, je dis mon départ.
Ton départ.
Ouais, mon départ.
Parce que moi, tu vois, remarque, moi aussi, je dois dire la vérité. Hein. Je me dis toujours que, en ce qui concerne l'Algérie, par exemple, où je suis née, mais parfois j'en doute. Enfin, en même temps, c'est vrai. D'Algérie, je suis partie. D'Algérie, je suis partie, mais parfois je me dis aussi, tu sais, si on joue avec l'idiome français, je suis d'Algérie, je suis partie, je suis une partie d'Algérie. Une petite partie. Et puis l'arrivée, alors par contre, je me suis toujours dit que j'arrivais pas. Tu vois, mon arrivée en France, c'est une sorte de pièce de théâtre, moi je dirais une tragicomédie, tu sais, j'arrivais pas à arriver. Alors là, vraiment, ça m'a pris un temps. Et un sentiment d'arrivée, j'en ai très très rarement. J'en ai avec les très physiquement avec, et spirituellement avec des êtres. Par exemple, avec toi. Je ne sais pas si on le partage, mais en tout cas, tu es une arrivée, tu m'es arrivée, et ça, je l'éprouve très très fortement. Peut-être même plus, c'est une chose que je disais toujours d'ailleurs à Anne, donc j'explique ta mère, c'est-à-dire ma fille, c'est-à-dire Anne. Mais j'ai toujours pensé qu'un enfant nous arrive si justement on l'adopte. Il ne suffit pas de le mettre au monde. Il faut qu'arrive le moment de l'adoption. Mmh. Tu es d'accord, chérie ?
Oui, je suis d'accord. C'est vrai. Adopter ou non adopter, ça ne veut pas dire que non adopté, on s'entend forcément moins bien. Si on est non adopté, donc biologique, on s'entend forcément mieux avec ses parents. Non, c'est plus... L'adoption va dans les deux sens. Et donc, vous m'avez adopté, cette famille, moi aussi, je vous ai adopté, totalement.
C'est Isha qui veut se faire adopter
oui.
De force.
Oh. Bête.
Lorsqu'elle parle en sol majeur avec Saranya, Hélène Cixous est dans les tissus, les parfums, les bijoux du langage. D'ailleurs, il y a dans leur pot commun l'art de la narration et l'art des mondes multiples aussi. Lorsque Cixous écrit par exemple sur sa mère Ève, ou lorsque Saranya parle de sa grand-mère Hélène.
Alors déjà, Hélène, eh ben, Hélène, c'est. Tu es ma grand-mère, tu es la mère de ma mère, tu es.
Moi, je pense qu'on a une grand-mère. Enfin, qu'on a une mère, nous toutes dans la famille.
Oui,
et c'est Ève.
Ouais.
C'est ma mère.
Oui.
C'est ma mère qui nous sert de mère à tous.
Oui, c'est vrai, on sent ça. Oui. Ouais. Mais par exemple, le fait de ne pas t'appeler grand-mère ou mamie. Ou... et moi, je préfère tellement
bien
plus.
Sûr.
Je t'appelle Hélène et c'est comme
et
ça.
Parce que aussi, qu'est-ce que tu veux c'est, d'une certaine manière, grand-mère, bon, c'est vrai dans la généalogie, bon, mais c'est un rôle aussi.
Mais oui.
Et alors, c'est un rôle qui a sa noblesse et son intérêt. Mais moi, je trouve terrible d'appeler quelqu'un comme ça parce qu'on l'enferme dans un rôle. Et voilà, alors que moi, par exemple, dans mon rapport à toi, je dis que tu es ma petite fille parce que je trouve que c'est un plaisir infini, mais que c'est comme si je disais que je t'aime, que tu es mon amour ou quelque chose de ce genre. Mais puisqu'on se dit des choses de ce genre, finalement, ce qui fait que, par exemple, on est ensemble aujourd'hui en train de parler, c'est que pour moi, tu es une femme. C'est-à-dire que, alors, tu étais, quand tu es arrivée miniature, tu étais comme ça... une petite pousse, une petite semence de femme. Mais tu as toujours été une femme, je crois aussi à cause de ta beauté éclatante et de ta beauté intérieure, c'est-à-dire ta vitalité, ta façon de prendre, justement, de désirer la vie. Mais tu es une succession de femmes. Voilà. Ça va vite, comme pour les chats. Hein, c'est-à-dire que la femme que tu étais, que tu voulais être quand tu voulais être une sirène, et de ça, il faudrait qu'on en parle. Parce que tu es partie vite comme ça... du côté des incarnations. Et puis, je dirais tous les deux ou trois ans, une autre femme. La même, mais une autre. Comme celle que tu étais à 14 ans. Enfin, celle que tu voulais être quand tu avais 10 ans, où tu regardais ta poitrine en disant « Mais alors, ça arrive ?» Et Dieu sait que c'est arrivé. Et puis... et chaque fois, je me dis « Tiens, Saranya, ah, une autre. » Toujours la même, mais
oui.
Une autre.
Oui.
C'est rare, tu sais. Franchement, j'ai pas toujours ce sentiment.
Dans Hélène, pour moi, tu viens de... Je sais, mais pour moi, tu viens de la lune. Tu es une femme très lune. Moi, j'adore la lune.
Ah.
Alors, tout, et pour moi, tu es très lune. Tu n'es pas de cette terre.
Ah bon?
Tu n'es pas, non. Enfin, à vrai dire, pas grand monde dans cette famille n'est de cette terre. Tout simplement, zinzin. Mais... bien sûr, je dis ça, c'est ce qu'il faut. Il faut être zinzin dans la vie.
Moi, je ne savais pas, mais ça me va.
Et oui, parce que oui, tes origines, ton début de vie, ton parcours, vraiment de ta petite enfance, tout ça, je connais. Je veux dire, toi et Ève, ta mère et ton père, vous avez tous traversé des choses qui, pour moi, sont... inimaginable, je veux dire, c'est des choses que j'apprends mes cours d'histoire, je me dis, oh, mais moi mes grands-parents, mes parents, ben ils ont vécu ces choses, et pour moi c'est extraordinaire. Et puis Hélène, tu es tellement un personnage que ben, tu viens forcément de la lune, tu viens forcément de loin.
Les voix d'Hélène Cixous, femme de lettres, et de Sarania, étudiante en histoire de l'art, se câlinent entre les livres planqués et les chats sur la table. Mais de quelle manière les mots « transmission » et « adoption » peuvent jouer dans la même phrase de cette famille ? Réponse en point de suspension, jusqu'à Osnabrück, ville familiale, et titre d'un roman d'Hélène.
C'est rare que je fasse un voyage qui soit vraiment de jouissance. Oui. Là, je vais en faire un, c'est Osnabrück, et là, j'aimerais aller avec toi. Voilà, quelque chose que j'aimerais faire, c'est aller en Allemagne par là, en rentrant par la porte Osnabrück, ouais. Parce que c'est passionnant et historiquement c'est passionnant. Et tu aimerais aussi, parce qu'on pourrait se reporter justement, puisque tu as l'esprit historique, on pourrait se reporter aux périodes qui t'intéressent. Donc tu me disais l'autre jour qu'en histoire, ce qui t'intéresse c'est l'époque moderne, non ?
Si.
Ouais. Et la Révolution française ?
Ça m'intéresse... D'accord, mais on n'y est pas encore dans la vraie révolution. Et c'est vrai que, par exemple, entre nous, toi et moi, maman, Anne, Ève, ta mère, tu me dis révolution, je pense aussi libération des femmes. C'est vrai qu'aussi, vous m'avez toutes, et ça va aussi avec mon caractère peut-être dur, c'est vrai, bah, je suis une fille, mais ça ne m'empêche pas de faire ce que je veux. Et c'est vrai que... Pour moi, les vraies révolutions, les vraies libérations, c'est quand les femmes commencent à se mobiliser pour se dire « Allez, on... » Parce que droit de vote, 1944, enfin, c'est triste. Enfin, mais...
T'as raison, c'était... mais elle commence à la Révolution française. C'est là qu'il y a quelques femmes qui sont, au fond, celles qui ne sont pas décapitées. Seulement, comme tu dis, dans les années 40. Hein. Bon. Ouais. Mais pour moi, la Révolution française, avec tout ce qu'on peut en penser, mais c'est d'abord, du point de vue de la langue, c'est extraordinaire. Tu sais, quand tu entends les révolutionnaires, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient des nobles, des bourgeois, des gens du peuple, ils ont un discours, ils ont une force d'éloquence, mais j'en suis stupéfaite. Tu vois, je trouve ça admirable. Je me dis, ben, j'aimerais bien qu'on entende ça aujourd'hui. Hein.
Alors, mais ça, aujourd'hui, non, voilà. Plus bon. Du tout. Hein.
Donc, il y a quelque chose quand même de magique à cette époque-là. Hein.
Ah oui.
Et puis, ça, tu vois, pour moi, c'est fort. Ça, c'est une trace que toi, tu n'as pas, mais peut-être tu en as un peu, j'en sais rien. Mais pour moi, la Révolution française, c'est quand même l'époque où, pour la première fois, les Juifs sont considérés comme des citoyens. Et quand j'étais petite et que je suivais les cours d'histoire, qui me passionnaient, parce que je suis très historienne, en fait, mais je me disais toujours, oui, mais alors ça, on n'y est pas. Là, on n'y est pas, on n'est pas ici, on n'est pas là. Oups, arrive la Révolution française et... Tout d'un coup, la porte s'ouvre et on entre, tu vois. Et là, je me dis, ah, maintenant, ça devient mon histoire. Avant, on est des fantômes, tu vois. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, je ne pouvais rentrer dans l'histoire de France que par la Révolution française.
C'est vrai que dans cette famille, on est juif. Je dis « on » parce que je fais partie de cette famille, mais je ne me considère pas du tout... Pour moi, je suis enfant de juif, mais c'est tout. Parce que moi-même, je me considère athée totale. La religion, je suis vraiment contre la religion, pour plein de raisons évidentes. Après, je ne suis pas non plus contre la religion d'une manière agressive, violente, non, c'est pas du tout. Mais je suis très contre la religion. Mais je suis attachée à la foi, à la religion, peu importe musulmane, juive, chrétienne, bon, surtout parce que j'ai quand même des amis, qui sont eux-mêmes croyants, ou agnostiques en tout cas, n'importe quelle religion. Mon père, lui, il est juif. Il ne pratique pas. Enfin, il a fait sa bar mitzvah quand il était jeune. Bon. Mais dès qu'il a quitté le domicile familial à 16 ans, c'est bon, ça y est, c'était du passé, sa religion. Il n'est pas un homme de la tête, un homme un peu un fou à sa manière. Et donc, pas le temps pour la religion. Ce sont des bêtises. Et ça, c'est quelque chose auquel j'y tiens. Cette transmission de la religion... Pour moi, ma religion, ce serait la vie, et c'est tout.
Mais on est tous comme ça, c'est-à-dire que dans la famille, on n'est pas du tout croyant, bah et oui, personne ne l'est, bah et non. Personne ne pratique.
Quand Ève était encore vivante, on faisait des petits...
Mais elle ne croyait pas.
Non. C'est marrant, elle ne croyait pas.
Non, elle ne croyait pas. Et personne ne croyait. Ma grand-mère, déjà, c'est la mère de Ève, ne croyait pas. Mon père était athée, socialiste, etc. Donc c'était une famille totalement... Par contre... Tout le monde est porteur, justement, d'une solidarité, oui, de quelque chose qui... Et je me dis, ça, évidemment, ce sont des destins qui relèvent de l'éthique ou de la morale.
Exactement.
C'est comme toi, quand tu te mets en rapport avec d'autres garçons ou filles, mais c'est plutôt des filles, hein, tu m'as dit, qu'il y avait des filles de couleur qui étaient à Nanterre. C'était des filles, surtout,
oui,
tu
oui,
m'as
surtout
dit, hein.
Des filles, oui. Oui.
Bon, je pense que moralement et philosophiquement, on est en rapport avec les populations dont on descend et qui sont des populations qui ont été persécutées, décimées, malmenées, etc. Donc voilà. Et ça, on l'a en commun.
Un petit peu de chant de la terre de Mahler sur RFI. C'est le choix d'Hélène Cixous pour cet en sol majeur, concocté entre petite fille et grand-mère. Allez, on continue à mettre les pieds dans le plat et dans le lieu le plus conflictuel d'une maison, à savoir la cuisine.
Et comme épilogue.
Manger.
Mais t'aimes bien aussi quand je fais la cuisine.
Oui, tu cuisines très bien. Si, alors là, s'il y a une chose que je regrette, parce que mes parents, c'est pas trop ça. Je devrais pas le dire, mais bah, j'aime les salades que tu fais. Les salades betteraves, carottes, ou juste les salades vertes tomates.
C'est parce que j'utilise beaucoup d'épices, et ça, je le dois en fait à l'Inde.
Oui.
Enfin, je pourrais dire que je le devais d'abord à l'Afrique du Nord, ce qui est vrai. C'est-à-dire que ma grand-mère paternelle, que tu ne connais absolument pas, et qui était elle d'origine espagnole, elle faisait une cuisine qui était une cuisine algérienne. Et c'était très, très, très parfumé. Et je trouvais que c'était bien meilleur que la cuisine de ma grand-mère allemande, qui était celle que nous mangeons. Et qui était... Voilà, bah, qui était très allemande, quoi. C'est-à-dire le contraire.
Ouais. Non, j'imagine, j'ai mes idées.
Mais c'est passionnant, tu sais, ça m'a appris quelque chose justement. Les deux cuisinières et des cuisinières adverses qui pouvaient se disputer violemment autour de l'ail. Mais de toute façon, c'est le jeu qui n'est pas un jeu, qui est très sérieux, c'est que c'est jamais la même chose. C'est-à-dire que tous les jours, c'est une autre.
C'est vrai.
Ensuite, c'est qu'il y a une liberté absolue de saveurs et de couleurs. C'est-à-dire qu'on peut utiliser fruits et légumes de toute espèce cuits et crus ensemble. Toutes les choses que, en fait, on rentre dans une rationalité, par exemple, de cuisine française, on sépare. Alors moi, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que j'allie, je mélange, j'essaye. Puis tout est important. La coupe, le fait que quand on coupe un concombre en gros morceaux, en petits morceaux, ça change totalement le goût. Que si on met une lamelle de courgette crue et des champignons dans le même bol de salade, avec des dimensions différentes et des coupes différentes, le goût est changé, évidemment. Et ça, c'est passionnant.
J'aime bien les tapao de Ama.
Ouais, les tapao, tout le monde l'aime.
Tout le monde aime. Même l'empereur.
Ouais, elle aime ça.
Ouais.
Ça y est, nous voilà propulsés en sol majeur dans la cuisine d'Ama, 101 ans, et de sa petite fille Jeanne, 33 ans. Mille et un mondes les séparent en fait. Jeanne ne parle pas le cantonais et Ama se débrouille en français. Pourtant, un fil ténu les réunit, et pas seulement celui du porc caramélisé préparé par sa fille Mireille. Ama est née près de Canton en 1918 et depuis toujours, Jeanne, aujourd'hui éditrice aux éditions Les Équateurs, écoute, décrypte, dissèque l'histoire de sa grand-mère, son enfance dans les rizières, son mariage forcé avec un haka et sa vie au service de Bao Dai, le dernier empereur du Vietnam réfugié en France. Sa vie, ses souvenirs ont le goût de l'archive vivante pour Jeanne.
Ama, tu t'appelles comment ?
Ah.
En chinois.
Yao, Yao, Yao. La famille, Wu.
Ta famille, c'est Wu.
Wu, Wu, Yao.
Mais Wu, c'est ton village aussi.
Wu, c'est comme un Poon, tu vois.
La famille, c'est ton mari. Ama.
Ouais, Poon, c'est ma mari. Mireille, Poon. Poon, Mireille.
Mireille, elle est Poon. Et moi, mon nom chinois, c'est quoi ?
Yutho, Yama.
Et ça veut dire quoi ?
Et ça, la lune.
C'est la lune.
Bon, la lune, c'est tout. Bon,
c'est une bonne lune.
Bon.
Donc ça, c'est mon prénom. Et toi, Yu Tiao, ça veut dire la lune avant la lune, c'est ça ?
Ouais. Yao.
Donc nos noms, ils sont très proches. Bah. Et les garçons aussi, ils ont un prénom de lune, comme ça ?
Oui, les parents que vous donnez.
Tes parents, ils s'appelaient comment ?
Les parents, mon père, a Yu. Ma mère, c'est esclave, voilà.
Elle est esclave ?
C'est Wang Lu pour quelqu'un.
Qui est-ce qui l'a vendu ?
Il n'y a pas l'argent à Wang Lu quelqu'un. Par son père Anne, ma mère.
Elle a été vendue à ton père comme esclave ?
Avant, tu sais, mon père, première femme, elle est morte pendue. Deuxième femme, elle est couchée, le bébé est mort.
Ta maman, c'est la troisième femme ?
Oui. Tu vois, terrible, hein ?
Ça, c'est une photo de toi ?
Ah, ça, oui. La fenêtre. Wu Yao.
C'est quoi ? C'est une pièce d'identité ?
Ouais.
C'est écrit tout en chinois ?
J'attendais.
Ça, c'est Mireille qui nous a donné.
Wu Yao.
Wu Yu Tiao. T'arrives à lire les caractères ?
Ouais, Wu Yao. Le nom de famille, là.
Ouais, c'est ton nom de famille.
Ouais. Où j'ai trouvé ça ? C'est moins fort alors, hein.
C'est Mireille qui cache tes trésors. Ama, tu disais que tu avais travaillé très tôt dans la terre.
Ah oui. Le poil, 5 heures du matin, le 6 heures pour partir la terre. 6 heures. Après, heureusement, je pars au Vietnam.
Avant le Vietnam, avant de partir, tu avais quel âge quand tu travaillais dans les champs avec tes parents ?
J'ai commencé 8 ans déjà. Les garçons ont toujours obligé à l'école. Ah, ben, pas tout le monde. Hein.
Et du coup, toi, tu travaillais ?
Je travaillais.
C'était dans les rizières ?
Mon père louait une grande machine. Il perd tout l'argent pour le poisson. Là.
Il s'est fait avoir, en fait.
30 ans, les machines ne peuvent pas rendre.
Ah oui ?
Les machines.
La machine pour élever les poissons ?
Oui. Elle est dans la tête alors. Yakwe, Yakwe. Yakwe, je connais. Ouais.
Yakwe, ouais. C'est quoi?
Yakwe, le paysan. Ah,
oui. C'est un paysan. Yakwe, Yakwe c'est quelqu'un Yakwe. Qui connaît rien.
Mireille, je te sers quelque chose? Je vais me servir.
C'est un ensole majeur où on apprend à manger avec les baguettes, comme Jeanne l'a fait avec Ama. Née en France d'un père chinois et d'une mère française, Jeanne a tenté la Chine ultramoderne des années 2000 pour y vivre comme une communiste chinoise, avant de décider finalement de naviguer entre les mondes et les cultures. Et aujourd'hui, elle bouillonne d'amour et de questions sur ses origines.
Tu te souviens, tu m'avais dit qu'il y avait des cochons aussi.
Ah ouais.
T'avais des cochons à la maison ?
Bientôt, il y en a un petit cochon, oui. Ici, comme un salon, un cochon.
Et tu peux me décrire la maison où tu vivais avec tes parents?
Oh, chacun, famille, a une chambre, un grand salon.
Ah, chaque famille salon. A une chambre?
Oui.
Il y avait combien de familles dans la même maison?
Ma mère couche 15 enfants.
15 enfants, ta maman?
Quand j'ai un enfant, il y en a 3 qui vivent, 4 qui vivent.
4 vivants? Alors, les autres, ils sont morts?
Oui, il n'y a pas assez d'argent à manger.
Et il y a des fils qui sont morts et des filles qui ont été vendues pour que vous puissiez
ouais,
manger?
Oui, ils ont grandi et ont vendu.
Comment on dit esclave en cantonais?
Et bonne à tout faire.
Bonne à tout faire?
Oui.
Et comment on dit en cantonais?
Zhou Gongyuan.
Zhou Gongyuan.
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 Zhou Gongyuan.
Tu m'avais raconté, tu te souviens, à Louise et à moi le week-end dernier, tu nous as dit que ton papa, il tapait ta maman.
Mon papa? Ah, le paysan, Ngao Jing, ça s'appelle Ngao Jing, papa des enfants, tout papa des femmes, terrible. Mao est arrivé, défendu.
Mao, il a défendu que les maris tapent leurs femmes, oui.
Ouais, papa des femmes comme ça.
Ouais. Et Ama, quand est-ce que tu es partie au Vietnam?
Moi?
Oui.
Moi, partie au Vietnam à 16 ans.
16 ans. Et Ama, t'es allée en train là-bas?
En bateau.
En bateau?
Oui.
De Canton? Jusqu'à Saigon.
Oui, pas tôt. Hong Kong, à Hong Kong, à part le Vietnam.
C'était très différent, le Vietnam, de la Chine?
Un peu gagner la vie est plus facile qu'en Chine.
C'est plus facile de gagner sa vie qu'en Chine?
Oui, en Chine, toujours pauvre.
En Chine, les pauvres, ils sont toujours pauvres et les riches, ils sont toujours riches.
Voilà.
Ama, au Vietnam, quand tu es arrivée au Vietnam, tu m'as dit que tu travaillais pour la tante et que tu étais son esclave. Ils avaient une épicerie et toi, tu vendais avec eux le riz, le Nyok Man.
Le riz, ouais, il y a des boutiques comme ici. Le riz, le bois, le charbon, tout, le sel, le bois, il y a tout.
Il y avait de l'encens pour le Bouddha.
Ah, Bouddha, il y a Bouddha pour le Bouddha, devant la porte, Vietnam.
Ah, devant la porte, il y a les Bouddhas. Et toi, t'es bouddhiste?
Tout est bouddhiste là-bas, Vietnam, il n'y a pas beaucoup catholique.
Oui, mais toi, tu crois en quoi?
Ah, oh. Crois au Bouddha.
Et avant, tu croyais au Bouddha. Ouais. Et maintenant?
Ah, maintenant, chrétien catholique. Là.
Maintenant, tu es catholique.
L'église, là. Je ne peux pas croire rien.
Bon. Maintenant, tu crois en rien? Tu crois en toi?
Crois en moi.
C'est bien.
Hein? Crois, ce n'est pas méchant.
Hein? Ah, là, non, tu ne veux pas voler non, quelqu'un non. Et tu crois en toi. C'est une bonne philosophie.
Ouais.
Et après...
Crois au bon Dieu quand même.
Tu crois quand même au bon Dieu. Quand est-ce que tu as rencontré Bao Dai?
Hong Kong.
À Hong Kong. Mm. Comment t'as réussi à rencontrer Bao Dai? C'est incroyable de rencontrer l'empereur. Comment ça s'est passé?
Moi, j'ai trouvé le connaître. Un Chinois très riche.
C'était un Chinois très riche, Monsieur ouais. Choi. Et c'était le voisin des Français pour qui tu travaillais, Monsieur Choi. Et c'est lui qui t'a présenté à Bao Dai.
Non, les petites filles français.
Du coup, t'étais à Dalat. Tu travaillais
ah ouais, après.
Pour des Français. Et tu as rencontré M. Choi, ouais. Et M. Choi,
moi,
il t'a présenté...
Le boy cuisinier, chauffeur, femme de chambre.
Femme de chambre.
Et mes enfants, et 5 personnes travaillent, M. Choi. Hein.
En 36, tu arrives au Vietnam, et en 46, tu arrives chez Bao Dai, à Hong Kong.
Ouais.
Et en 46, à Hong Kong, comment ça se passe? Tu arrives dans le château? C'est, ça ressemble à quoi, leur maison, leur château? C'est comment?
Une maison, c'est pas un château.
C'est une maison française ou une maison chinoise?
Les Chinois est riche. Ça.
C'est des Chinois riches,
ouais,
c'est une maison
ouais,
de Chinois riches.
Ouais.
L'empereur, c'était quoi son plat préféré?
Oh,
il mangeait des tapao?
Ah, pas souvent, hein.
Non, il mangeait du ticro?
Pas souvent, hein. À Casino, Beaucoup.
Au casino.
Ouais, casino et à Monaco.
Ah, mais ça, c'est quand vous êtes arrivée en France.
Hein?
En quelle année vous êtes arrivée en France?
1947, moi. Elle a raté l'emploi, tout ça. Caché le Viet Minh, Hong Kong, Hong Kong.
Et c'est le Viet Minh qui a chassé l'empereur, en fait.
Ouais, après l'empereur est déjà parti, Hong Kong.
Oui, il est allé se cacher à Hong Kong.
Caché là-bas.
Mais qu'est-ce que la transmission? Comment ça marche? Dans quel sens giratoire? Ambiance tapaos, pour caraméliser, au sud de Paris, chez Ama, qui, lorsqu'on lui pose la question, dit se sentir française. C'est l'évidence même.
Comment tu as appris le français?
Moi?
Oui.
Moi, on travaille chez Interthèque.
Quand tu travaillais pour les familles françaises au Vietnam?
Oui.
C'est ça?
Je travaillais français. Après, je travaillais le petit chinois. Après... parler vietnamien, tout ça, et travailler petite fille, et ça c'est Assam.
T'étais une Assam. Assam, ça veut dire quoi?
Assam.
Assam, c'est la
chinois.
Nourrice.
C'est la femme chinoise.
Tante.
C'est la femme chinoise, c'est à peine Assam, Assam.
Comment c'était la vie en France pour toi? C'était bien?
Ah, 2 ans, je ne suis pas sortie dans la rue.
Ah, pendant 2 ans, tu n'es pas sortie dans la rue? Tu restais dans le château tout le temps?
Dans le château, qui fait les enfants.
Quand tu es venue à Paris?
Oui, 218 par ici.
À Vitry-sur-Seine?
Oui.
Est-ce que c'était difficile de vivre en France?
Ah, comme en prison.
Comme en prison? Je sortais
dans la rue. Travaillais là-haut, en bas, pas sortir dans la rue.
Et après, quand vous êtes venue à Paris, tu n'étais plus en prison?
Ah. Après, je venais à Paris aussi, je n'ai pas sorti de promener, pas ami, toujours fermé, toujours travaillé, pas promener.
Ama, l'autre jour, tu m'as dit, moi, j'ai une mémoire d'éléphant, et tu m'as dit, si je pouvais écrire, j'écrirais un bouquin.
Ah ouais, moi aussi, comment ma vie, écrire des bouquins.
Et tu sais ce que c'est mon métier?
La tête, moi, j'ai à peine plus.
Mon métier, moi, c'est de faire des bouquins.
Ah, mais... dans la tête, là, je ne sais plus. Là. Ouais.
C'est pas grave. C'est pas grave. Mais moi, ça me fait plaisir de savoir que toi, tu veux faire un bouquin et que moi, mon métier, c'est de faire les bouquins. Comme s'il y avait un lien.
Mais la tête, pas tout en pensée. Hein. Oublier. Hein.
Est-ce que tu voudrais que j'écrive une histoire de ta vie?
Ah, oh, c'est pas à peine. Hein. Merci, c'est pas à peine. Hein. Les a passés.
En sol majeur, où il aura été question de Falakok, de Guinée-Bissau et de Mao. Merci mille fois à Clara, Hélène Sixou, Sarania, Jeanne Famtran et puis une pensée toute particulière pour Sarah Maldoror et Ama qui nous ont quittés. En sol majeur avec Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, Théo Raison. À retrouver sur Pure Radio cette émission. Et demain, on se retrouve également pour un autre esprit de famille. Dans un instant, votre journal.